Et pour amorcer l'émission, accueillons Monsieur Mario Tremblay. Bonsoir, Mario.
Bon, cher Mario, toujours un plaisir, mon ami.
Content de t'accueillir. Ça brasse dans les séries, pas à peu près. T'as vu ça hier encore une fois, le sujet dont tout le monde parle. D'ailleurs, juste pour se mettre dedans, replongeons un petit peu dans l'ambiance du match entre les Hurricanes et les Caps hier.
Hurricanes wasting no time. There's a fight. Alex Ovechkin dropping the gloves. Oh! Oh! Wow! And he rocks the youngster Svechnikov.
Svechnikov se fait carrément passer le knockout par Alex Ovechkin. 40 livres de différence entre les deux, un pouce, bien des années d'âge. Une erreur de recrue de Svechnikov d'avoir tenté de diable avec Ovechkin?
Ben, moi, je pense que oui, puis je pense que je suis très bien placé pour t'en parler. Je me souviens, quand j'ai vu cet incident-là hier soir, quand le jeune était après narguer Ovechkin, puis là, d'autant plus que Washington tirait de l'arrière dans ce match-là, il y avait de la frustration. Alors le T-Kid, lui, il commence à pousser, puis pousser, puis ben, Ovechkin cette année. Ça m'a rappelé en 76, nous étions à Los Angeles face aux Kings. Dave Schultz avait été échangé l'année d'avant des Flyers aux Kings de Los Angeles. Puis à un moment donné, moi, là, comme un gars de 19 ans, tu faisais mon petit frais un petit peu. Puis je commence à narguer Dave Schultz, juste en avant du banc du Canadien. Et à un moment donné, Dave Schultz décide de dropper ses gants. Ses gants par terre, j'ai pas le choix, j'engage le combat. Deux coups de poing plus tard, je me suis réveillé dans la clinique, manquait deux palettes en avant, et j'avais à peu près 6 points de suture sur la lèvre supérieure. Puis là, j'allais après les gars dans la chambre, j'ai entendu des vétérans, certains vétérans dire « Le jeune, il va apprendre. » Fait quand tu pèses 180 livres, puis tu t'attaques à un gars 2-10, 2-20, garde tes baguettes, puis laisse-t'es tranquille. C'est ça le message que je veux passer à Svechnikov.
195 livres, Svechnikov contre Ovechkin, qui est pas loin de 2,35 officiellement. C'est peut-être 2,40. Ouais, Ovechkin, il l'a pas manqué. Et une chance que collectivement, comme équipe, les Hurricanes ont bien réagi à ça. C'est une belle victoire des Hurricanes hier, là, en Caroline.
Écoute, je peux pas croire, honnêtement, là. Puis d'autant plus que Washington, fort possiblement, ont peut-être pris ça à la légère, vu qu'ils mènent 2-0 dans la série. Et quand on pense, Mario, la Caroline, là, 5-0, 45 tirs au filet contre 18 pour Washington. Ça a été la débandade totale du côté de Washington. Alors peut-être que cette dégelée-là va les motiver davantage pour le match numéro 4. Mais attention, la foule présentement en Caroline. Écoute, j'ai vu des images l'autre jour. Lorsque les Hurricanes sont revenus en Caroline, il y avait du monde dans les rues qui avait des pancartes qui leur envoyait la main comme s'ils venaient de gagner la Coupe Stanley. Et de voir l'ambiance qui règne justement en Caroline, c'est tout simplement phénoménal. Alors là, avec la foule, tu sais, des fois on parle que la foule, c'est 7e joueur justement de derrière l'équipe. Ben en Caroline, présentement, c'est le cas.
Avoue que, comme amant du hockey, on en mange, nous autres, Mario, la plupart des gens au Canada, de voir que, tu sais, des marchés qu'on a toujours qualifiés de moribonds, quand les gens s'enflamment comme ça pour notre sport national, on aime ça, hein?
Ben on aime ça, Mario. Puis comme on parlait justement tous les deux, venant à l'annonce tantôt, tu sais, quand une équipe gagne, les partisans y vont. Tu sais, je pense que la Caroline, tu fais quoi? Ils ont pas fait les séries depuis 2009. Imaginez-vous, là, on est rendu en 2019, fait quasiment 10 ans qu'ils n'avaient pas fait des séries éliminatoires. Puis souviens-toi également des Panthers de la Floride, il y a plusieurs années aussi, quand ils ont dit dans les séries éliminatoires, on commençait à garrocher des rats sur la patinoire. L'aréna était pleine, puis il y avait un engouement pour les Panthers de la Floride. Mais à un moment donné, il faut que tu gagnes. C'est la seule façon d'amener les partisans dans l'aréna, quoi.
Penses-tu que Washington a juste levé le pied pour un soir, puis ils vont clencher la Caroline dans les prochains matchs, ou que les Hurricanes pensent qu'ils peuvent battre les Caps de Washington, et même à la limite, le knockout subi par Svechnikov, penses-tu que ça peut devenir un point de ralliement, Mario?
Ben, sans aucun doute, moi, je pense que oui, Mario. Je pense que tu as une très bonne observation. Puis, tu sais, puis là-dedans, moi, là, j'aime beaucoup le travail de Rob Brind'Amour. Tu sais, Rob Brind'Amour, comme joueur, c'est un gars émotif, puis je l'aime derrière le banc. Je le voyais hier soir, il est actif, il parle aux défenseurs, il parle aux joueurs devant, il parle à ses assistants. Tu sais, c'est pas un coach qui est monotone. Moi, j'adore ça, ce genre de coach-là. Puis je trouve que, puis tu sais, on dit que c'est un entraîneur qui est très proche de ses joueurs, puis qu'on le veuille ou non, Mario, ça paraît.
Penses-tu que John Cooper, l'effet Cooper est moins palpable du côté de Tampa Bay? Fais-tu un lien entre les performances du Lightning, actuellement 0-3 dans leur série contre Columbus, et le message de Cooper qui vient tout juste d'être renouvelé, d'ailleurs, là, une prolongation de contrat en fin de saison régulière?
Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, là, lorsque tu finis en tête de la Ligue nationale avec 124 points, tu sais, c'est évidemment, chaque entraîneur a son style. Il y en a qui sont plus calmes, d'autres qui sont
128.
Plus volubiles. 128 points. D'autres qui sont plus volubiles derrière le banc. Mais tu sais, quelle surprise. Je comprends qu'il manque Strahlman puis qu'il manque Edman à la défense. Mais quand même, Tu sais, c'est une équipe qui a volé allègrement là, toute la saison, du jeu ouvert, ils ont du talent. Mais là, c'est l'adversité, là, pas à peu près, l'adversité est tellement coriace. Puis les joueurs, ils disent, on n'a pas, quand des gars disent ça de Tampa Bay, on n'a pas de temps et d'espace. Mais tabarouette, Mario, sais-tu quoi? C'est à vous autres à vous en créer du temps et d'espace. Puis je pense que ce club-là n'est pas habitué à ce style de jeu-là.
Permets-moi de revenir au knockout subi par Zvezdnikov, Mario. Je voulais savoir, j'étais curieux, je suis sûr que beaucoup de gens de notre auditoire se sont posé la même question. Quand tu vois un kid se faire knocker comme ça, tu te demandes s'il va garder des séquelles, s'il va redevenir comme étant le même pour la suite des choses. Puisque t'es passé par là, est-ce que ça t'a affecté pour la suite?
Pas tellement, non. Je te dirais que non, parce que à un moment donné, t'as pas le choix. Le lendemain, ça recommence. Puis fort possiblement que, écoute, dans mon temps, fort possiblement que je fais une commotion. C'est fort possible.
T'as joué le match suivant.
On a joué le match suivant, puis tout est bien correct. Ah ben de ce que j'ai vu aujourd'hui là dans les médias, apparemment il va quand même bien le kid là. On fait le test là, justement pour les commotions cérébrales et tout ça. Mm-hmm. Mais je pense qu'il va être correct. Puis c'est même fait pour Paul Byron. Paul Byron, c'est un peu le même incident là.
Oui.
Tu sais, il lâche les gants contre un gros bonhomme, il se fait knocker aussi. Alors Paul est revenu quoi deux matchs par après. Alors à quelque part là-dedans, faut faire attention. Lorsque tu prends des décisions comme celle-là, il faut t'assurer que, justement, tu te fasses pas de nos côtés. Ou si t'es pas un bagarreur, tu te bats pas. C'est aussi simple que ça.
As-tu vu avant hier soir Evander Kane contre Ryan Reeves, Mario? Je sais pas si tu l'as vu, mais Kane et Reeves s'enguirlandent puis ils s'insultent d'un banc à l'autre. Mais c'est oui. Sûr que le bagarreur des deux, c'est Reeves. C'est mm-hmm. un bon joueur de hockey qui est très, très utile à Vegas, mais le meilleur joueur de hockey des deux, c'est Kane. Mais là, il fait abuser de lui physiquement. Puis à un moment donné, s'il réplique pas, puis tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ses bottines? Tu jettes les gants pour essayer de mettre un stop à ça. Les arbitres laissent aller Reeves là à coup de double échec sur Kane, tu sais, à un moment donné.
Encore là, tu sais, on parle d'arbitrage, là. Puis moi, j'aime pas ça de parler contre les arbitres parce que j'écoutais certains commentaires aujourd'hui, les gars disaient « Ouais, mais l'arbitrage est tellement pourri dans la Ligue nationale. » OK, peut-être que l'arbitrage est pourri, mais n'oubliez pas là, que les arbitres dans la Ligue nationale là, qui sont choisis pour les séries éliminatoires, Mario, c'est les meilleurs au monde. C'est les meilleurs au monde. Est-ce qu'on a eu certaines directives comparativement à la saison régulière? Fort possiblement que oui, sauf que durant les séries, là, on le voit de nos yeux propres, comment le niveau d'intensité augmente. Alors, à un moment donné, comment on gère tout ça, c'est assez difficile de... Parce que durant l'hiver, honnêtement, dans le calendrier régulier, on va voir quelques matchs vraiment où c'est vraiment intense, puis c'est physique. Mais dans les séries éliminatoires, c'est chaque match, c'est chaque présence. Tu sais, je regardais justement la mise en échec de Joe Thornton.
Oui, qu'est-ce que t'en as pensé?
Premièrement, là, je trouve ça une... C'est rare que je vais dire ça. Je trouve ça une disgrâce de la Ligue nationale qu'on lui donne seulement qu'un match de suspension.
D'accord.
Voyons donc, c'est un récidiviste. Puis quand il dit que, ouais, il l'a pas tellement vu, voyons donc. Hey, Joe Thornton, ça fait 100 ans qu'il est dans la Ligue nationale de hockey. Venez pas me faire croire à moi, Mario Tremblay, que Thornton... Hey, écoute, moi, je pense que c'est un geste qui était disgracieux, et il aurait dû normalement avoir plus d'un match de suspension.
Surtout quand tu l'avais agi sur Marchessault une couple de minutes avant, où il,
voyons donc,
il fonce Marchessault qui ne s'attend pas à se faire frapper, il y avait même pas rondelle, mais non, c'est voilà. Ça, à un moment donné...
C'est un coup sauvage, puis je trouve que, comme j'ai dit tantôt, un match, c'est pas suffisant.
Et juste avant de revenir sur les matchs de ce soir, Mario, grosse victoire des Maple Leafs hier de retour à domicile, Marner qui sacrifie physiquement, tout un joueur de hockey, hein?
Mario, t'es-tu comme moi? Est-ce que tu trouves que Toronto n'ont pas le même club que l'an passé face aux Blues de Boston? Je lisais les commentaires de Brad Marchand après la rencontre d'hier soir. Et Brad Marchand, il dit, faut trouver une façon de les arrêter parce qu'ils sont beaucoup plus rapides. Alors, puis ce qui est impressionnant...
Et ils ont Tavares aussi, là, en plus.
Ben, Tavares en plus. Mais lorsqu'on parle de jeunes joueurs de hockey qui ont du talent, puis qui sont intelligents, puis qui savent tout faire sur une patinoire, il faut parler de Mitch Marner. Mitch Marner, hier soir, là... Écoute, il a été... Babcock, là, comme entraîneur d'expérience, l'utilise, évidemment, 5 contre 5, en avantage numérique, en désavantage numérique. Et moi, ce qui m'a vraiment plu hier soir, c'est à la fin de la rencontre, ce petit bonhomme-là est sur la patinoire. Les Bruins tirent de l'arrière par un but. On n'a plus de gardien de but du côté de Boston, donc on est 6 contre 5. Et Marner fait... Elle bloque deux lancers, oui. Là, directement. Puis on voyait que ça lui a fait mal après le match. Puis quand j'ai vu tous ses coéquipiers... aller vers lui, faire la collade, même le gardien de but Anderson, le prit dans ses bras. Ce petit gars-là, à cet âge-là, être le leader, dans le fond, être Je pense qu'il est le meilleur leader des Leafs de Toronto. C'est absolument remarquable. Puis je pense que, tu sais, tous les jeunes qui regardent le hockey, puis des fois, on s'identifie à tel joueur, tel joueur, tel joueur. Mais Mitch Marner, là, écoute, j'espère, puis ça que je dis ça sans méchanceté, que Jonathan Drouin regarde les séries éliminatoires, de voir le niveau d'intensité, comment ça monte d'un cran, deux crans. C'est juste ça qu'on demande, parce qu'il y a le talent pour le faire. Mitch Marner a le package complet, puis il le fait soir après soir.
Et j'ai hâte de voir combien il va coûter aux Maple Leafs de Toronto, là, qui vont tout faire pour le garder. Si les Leafs devaient sacrifier un joueur, là, il y en a qui ont été mis sous contrat, ça serait une lourde perte, Mitch Marner. Je sais pas si tu pourrais le comparer. Penses-tu qu'il y a un plus gros impact qu'Austin Matthews dans cette équipe-là?
Moi, je pense que oui. Je pense que pas une tonne d'avance, là, mais je pense que c'est un joueur plus complet que Matthews. Puis on l'a vu Matthews hier soir. Tu sais, on regarde dans les séries, le but qu'il a marqué en avantage numérique hier, là, toute une passe de Mitch Marner également.
Ah oui.
Alors, à quelque part dans tout ça, moi, je pense honnêtement, écoute, Matthews est un excellent joueur, mais je pense que si on parle de joueur complet, je pense que Mitch Marner est un joueur plus complet que Matthews.
Marc Bergevin s'est amusé l'autre jour en entrevue avec nous de l'idée là, des offres hostiles, même s'il avait répondu sérieusement à ça pendant son point de presse. Après ça, en entrevue avec moi et aux amateurs de sport, il a dit « Ah, ça me fait rire, c'est la saveur du mois ». Mais il reste que deux des joueurs, des fabricants de jeux les plus prolifiques de la Ligue sont susceptibles de recevoir des offres hostiles, c'est-à-dire Mitch Marner et Braden Point, qui a lâché les gants d'ailleurs dans le match numéro 2 l'autre jour avec Tampa Bay. Est-ce que t'aimerais voir, je sais pas, Bergevin ou un autre, y aller d'une offre hostile envers un de ces joueurs-là?
J'aimerais bien ça voir ça, Mario, honnêtement. Puis sais-tu quoi, moi, comme directeur gérant, là, je sais que ça coûterait 4 choix de première ronde pour les 4 prochaines années. So what? So what? De ramasser un joueur comme Mitch Marner pour les 10, 12, 13 prochaines années? J'aurais aucun problème à vivre avec ça, honnêtement.
Deux équipes font face à l'élimination ce soir. Tampa Bay contre Columbus et Pittsburgh également. Est-ce que tu penses que les Pingouins vont survivre ce soir face aux Islanders de Barry Trotz?
Moi, je pense que les carottes sont cuites là, pour les Pingouins de Pittsburgh. J'ai trop vu depuis le début de cette série-là l'avantage du côté des Islanders à 5 contre 5. On est agressif, on est dans leur visage aux Pingouins de Pittsburgh. Puis il y a beaucoup de joueurs présentement, à moins d'avoir un gros réveil de la part des comme Sidney connaît pas une grosse série jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut garder Sidney Crosby en dehors de la feuille de pointage longtemps? Peut-être que non. Mais écoute, c'est sûr que les Pingouins de Pittsburgh, soyons honnêtes, vont tout donner ce soir pour faire face à l'élimination. Et avec une équipe avec autant de talent, faut que ces gars-là se regroupent. Parce que si tu veux ne pas être éliminé justement, bon, ben, faut commencer quelque part. Puis c'est pareil pour Tampa. Mais moi, je pense que pour Tampa, ce soir, ça va être très difficile. Parce que jouer à Columbus, mon chum, avec des coups de canon qu'il y a là, c'est pas évident. Puis je pense que John Tortorella va tellement bien préparer son club. Tu sais, des fois, on sait pas, là. Bon, Tampa gagne ce soir, ça fait 3-1. On retourne à Tampa Bay, ça fait 3-2. Puis après ça, ben là, on commence à jouer sur les talons.
La pression bascule.
Ben voilà, puis c'est, écoute, ça arrive pas souvent, mais ça arrive.
Si jamais les Pingouins devaient se faire balayer en 4 matchs, il y a déjà des rumeurs à l'effet qu'il y aurait sans doute des changements. Et on spécule déjà sur l'avenir d'un gars comme Malkin. Je pense pas qu'ils vont jamais se dissocier de Sidney Crosby. Malkin, qui est quand même tout un joueur encore, 21 buts, 51 passes, 72 points en 68 matchs seulement de saison régulière. Il y a 1 but, 2 passes dans les 3 premiers matchs de cette série-là. Il a 32 ans, il va avoir 33 ans cet été. Est-ce que c'est le genre de joueur, c'était un DG dans la ligue que tu aimerais l'avoir même à cet âge-là dans ton équipe, Mario?
Ouais, évidemment, c'est sûr que, tu sais, même à 32 ans, je pense que Malkin vaut encore son pesant d'or, pour peut-être quoi, 3-4 ans encore. Mais moi, je pense que je serais surpris qu'on puisse toucher au duo Crosby-Malkin. Mm-hmm. Je pense que c'est Phil Kessel qui serait plutôt dans l'eau chaude.
Ouais.
Lorsqu'on regarde le travail, tu sais, Jim Rutherford, habituellement, le directeur gérant des Pingouins, c'est pas le gars qui va retarder. Quand il y a des problèmes, il est capable de bien
fonctionner,
décerner les problèmes, puis il règle ses problèmes. Je ne pense pas nécessairement que Malkin et Crosby vont être touchés, comme j'ai dit tantôt. Je pense que c'est plus Phil Kessel qui pourrait être dans les autres troubles.
Alors, deux équipes balayées ce soir, Mario?
Ouais, je pense que oui. J'avais un petit 2 à mettre, là. Je pense que ça va se terminer en 4. Incroyable, mais vrai.
Et petit sprint pour finir, là. On a vu Winnipeg mettre son pied à terre dans cette série-là au dernier match. Réussir à aller gagner un match sur la route. Comment vois-tu la suite des choses pour Winnipeg-Saint-Louis?
Ben moi j'ai choisi Saint-Louis contre Winnipeg, mais je pense que je change pas d'idée. Écoute, c'est sûr que Winnipeg ont joué un bon match. mais je pense que les Blues de Saint-Louis, normalement, là, devraient revenir pour gagner ce match-là ce soir. Mais ça va tout un match de hockey. Mais je pense que j'ai tellement été déçu des Jets de Winnipeg là, vers la fin de la saison. Oui. Les deux premiers matchs à Winnipeg où les Blues ont gagné, même si ça a été des matchs qui ont été serrés.
On dirait que Coughlin s'est réveillé, par exemple, au dernier match. La dimension physique est intimidante. Là.
Mario, quand tu veux gagner en série, je me répète souvent, faut que tes meilleurs joueurs soient les meilleurs. Et les équipes qui tirent de l'arrière 0-3, les meilleurs joueurs de l'autre bord ont été meilleurs que ceux qui tirent de l'arrière 0-3.
Comme McKinnon avec Colorado hier, tout un match. Hein?
Et voilà, avec Rantanen. C'est ça, exactement ça.
Et je suis convaincu que tu vas veiller tard ce soir, San Jose, Vegas, match numéro 4. Bon, Vegas à domicile, très, très difficile à battre, mais est-ce que San Jose... En tout cas, j'ai hâte de voir la suite des choses. San Jose doivent vraiment créer l'égalité ce soir dans cette série-là, sinon je donne pas cher de leur peau. Là.
Mais moi, dire une affaire, Las Vegas, ils jouent à tabarouette-là. Là. Tu sais, tu regardes, là, même Pacioretty, ce trio-là, Stachny...
Stone,
ils récoltent des points, puis c'est des facteurs importants pour Vegas. Alors, ils ont le vent dans les voiles présentement, mais moi, je pense que San Jose en ont plein les bottines. Puis je trouve que Vegas, là, ils sont un peu comme l'an passé. Mm-hmm. Ils ont le vent dans les voiles, mais ils sont encore meilleurs que l'an passé.
Ouais, ben c'est ça qu'on est en train de découvrir. Mario, merci beaucoup. Merci pour l'anecdote savoureuse de Dave Schultz, notamment, et pour tous tes commentaires. Je te souhaite une excellente soirée. On n'aurait pas aimé être à ta place quand même. Là.
Non, ça fait mal. Mais c'est un coup engourdi, tu sens plus rien.
Merci, Mario.
Bonsoir.
Bonne soirée. Dans quelques instants, on va parler de soccer. Nouvelle acquisition pour l'Impact de Montréal. Des détails avec Jérémy Filosa. Et on va revenir sur les séries avec Daniel Briac, qui va aussi commenter l'arrivée d'Alain Vigneault comme entraîneur-chef du côté de Philadelphie. À tout de suite.